Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois au podcast GPBL Pensée Projet. Ici Benoît Lalonde et comme vous savez, à toutes les fois, on rencontre des gens influents dans le monde de gestion de projet. Et aujourd'hui, on a le très grand privilège d'avoir Cyril Vulgarides qui est le président de Technologia, une grosse firme de formation au Québec. Et avec lui, on va jaser des développements des compétences associées à ça. Donc, un beau bonjour, Cyril.
Bonjour, Benoît. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
Excellent. Et de sorte que ben, nous aussi, on est très, 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 très heureux, surtout que de l'importance des développements des compétences aujourd'hui dans le monde et surtout en gestion de projet. Mais avant d'y aller dans nos compétences, j'aimerais un peu que mieux connaître Cyril, un peu ton parcours.
Avec plaisir. Écoute, ça fait 6 ans à peu près maintenant que je suis à la tête de Technologia, en formation depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un domaine que j'ai appris à connaître de fond en comble là, par rapport à tout ce qui se fait au niveau de l'apprentissage. Avant ça, bah, j'étais consultant, gestionnaire également. Donc, j'ai longtemps œuvré à aider les organisations à s'améliorer, à mieux performer comme consultant initialement, comme gestionnaire par la suite. Donc, toutes ces expériences m'ont quand même amené à converger vers l'apprentissage, vers la formation, qui est un élément quand même essentiel pour qu'une entreprise ultimement performe comme il faut.
Oui, tu me disais à bâton rompu que tu avais été responsable du département des costumes du Cirque du Soleil.
Et j'ai fait 5-6 ans au Cirque du Soleil, dont à peu près 4 ans et demi à la tête du département de costumes. Toute une expérience, beaucoup d'apprentissage pour moi. Une expérience mémorable.
Cyril, si on continuera un peu dans ton cheminement maintenant, pour qu'on comprenne mieux, Technologia, c'est quoi au juste?
Voilà, Technologia est une entreprise québécoise qui est un guichet unique pour tout ce qui est développement des compétences pour les organisations québécoises. Donc, on a un très grand catalogue de formation sur plusieurs thématiques, que ce soit la gestion de projet, mais aussi la gestion, le service à la clientèle, en technologie de l'information, en soft skills. Mais aussi, on a tout un pan de services pour aider les organisations pour tout ce qui a trait, en fait, au développement des compétences. Donc, des services conseils, du développement de parcours d'apprentissage sur mesure, les aider à travailler des plans de formation pour leurs talents. Donc, tout ce qui touche à l'apprentissage et au développement des compétences des employés des organisations, on couvre ça.
C'est quand même très large comme spectre, c'est fascinant. Puis, écoute, si on voudrait un peu définir, c'est quoi les compétences? Toi, ça serait quoi ta définition pour mettre la table comme il faut, là?
Bonne question, parce qu'on utilise de plus en plus le mot compétence, souvent à mauvais escient. On confond des fois une habileté, une compétence, un talent. Une compétence, si on la prend dans sa définition de la plus pure, c'est quelque chose quand même d'assez gros. Dans la vie, les spécialistes de la chose mentionnent qu'on peut maîtriser 2, 3, 4, 5 compétences au maximum. Donc, c'est pas des petits morceaux, hein. Donc, exemple, être compétent en gestion de projet. Bon, la gestion de projet, c'est un métier, hein. Donc, être compétent en gestion de projet, ça s'apprend sur plusieurs années. C'est pas quelque chose qu'on dit, je suis compétent. Donc, c'est toute la maîtrise, finalement, d'un domaine qui est assez complexe. Donc, une compétence, ça se veut complexe. Une habileté, c'est un sous-élément d'une compétence. Donc, par exemple, j'ai une habileté de communication, par exemple, en gestion de projet. Donc, la somme des habiletés constitue ultimement une compétence qui nous démontre en bout de ligne que moi, comme individu, j'ai la capacité de livrer un output qui est assez marqué. Donc, en gestion de projet, ben, c'est livrer un projet dans les temps, gérer une équipe, bien gérer des conflits à l'intérieur d'un projet, parce qu'il y en a souvent. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, finalement, mis ensemble, définissent que je suis compétent, finalement, parce que j'ai livré le travail et j'ai mené un projet de A à Z avec succès.
Et donc, je comprends bien, une compétence, ça se mesure. On pourrait mesurer une compétence.
Idéalement, et si on veut vraiment travailler à l'améliorer, cette compétence, il faut qu'on parte d'un point initial qui se mesure, idéalement, avec un point d'arrivée qui lui aussi se mesure, parce que, idéalement, on devrait pouvoir attacher une compétence à une performance, qu'elle soit hard ou soft. Ça s'observe. Donc, si on parle de communication, par exemple, qui n'est pas une compétence en tant que telle, mais qui peut être une compétence si je suis un avocat, hein. Un avocat passe son temps à plaider en cours, donc il doit maîtriser cette capacité de communication. Donc, ça peut se mesurer, peut-être par rapport en nombre de cas qu'il gagne, hein, peut-être, mais aussi ça s'observe d'une manière qualitative où on peut voir s'il y a une influence. On peut observer sa capacité à influencer finalement. Donc ça s'observe ou ça se calcule de manière générale, oui.
Simplement pour clarifier, on voit de plus en plus, exemple, les départements RH deviennent des départements de talent et culture, donc le talent, compétences, habilités. On joue ces mots ou les concepts?
Est-ce qu'on joue sur les mots, sur les concepts? Ben en fait, moi, je suis bien heureux en fait de voir que les départements de ressources humaines deviennent de plus en plus stratégiques, hein. Fondamentalement, ma croyance, et je crois la croyance de plus en plus d'entreprises, c'est que les individus, les employés, sont la ressource la plus essentielle, hein, dans une organisation. C'est avec eux, ben, qu'on réussit ou qu'on réussit pas. Donc, le talent, pour moi, si on prend le mot talent encore une fois, dans sa simple expression, le talent, c'est la matière première avec laquelle tu travailles, hein. Mais c'est pas seulement avec le talent que tu vas réussir parce qu'une personne doit évoluer en cours de route. Une organisation évolue, les défis évoluent. Un individu change de poste en cours de route. Hein. Il commence par étant junior, donc il vient avec ce qu'il est, son talent. Hein. Mais ensuite, le talent ne suffit pas. Le talent doit se faire nourrir donc d'expérience, d'échecs, de réussites, mais aussi de nouvelles connaissances, de nouveaux domaines d'expertise et tranquillement de nouvelles compétences. Parce que le talent arrive de manière initiale avec beaucoup moins de compétences. Hein. Quand on est jeune, où on a un talent pour, je sais pas, pour grimper dans les arbres. Hein. Ensuite, pour devenir un grimpeur émérite et gagner des compétitions, ben, il faut s'entraîner. Hein. Donc, le talent, c'est la base. Chacun a ses talents. Et je pense que d'appeler ça talent dans une organisation, moi, je trouve ça bien parce que ça permet en même temps de focusser sur les forces des individus.
Oui, là, on parle beaucoup de, tu sais, de compétences, de talents des individus, mais est-ce qu'une organisation, est-ce qu'il y a des compétences au niveau de l'organisation qui sont envisageables ou est-ce que ça marche? Est-ce qu'on pourra faire un diagnostic des compétences d'une organisation?
C'est super intéressant. C'est un point dont on réfléchit beaucoup à l'interne chez Technologia avec plusieurs de nos spécialistes. Parce qu'on parle donc des compétences individuelles, mais est-ce que l'organisation a des compétences? C'est évident que la somme des compétences individuelles, la somme des compétences des équipes ou des départements viennent converger à développer des compétences organisationnelles. Donc, c'est évident qu'il y a une corrélation. Mais au-delà de la compétence ou de la somme des compétences individuelles qui viennent bâtir la compétence de l'organisation, à la base, chaque organisation, en fonction de sa mission et des défis qu'elle vit, doit identifier quelles sont les compétences qu'elle a besoin. Donc, pour une entreprise, je ne sais pas, qui travaille dans la construction des ponts, si je veux faire un parallèle peut-être proche avec la gestion de projet, la compétence d'une organisation doit être, je dois être capable de développer des ponts. Donc, je dois avoir cette expertise à l'interne. Il faut que je l'identifie pour faire les recrutements qui sont nécessaires et ensuite de développer la compétence des différentes équipes qui constituent la somme en fait des besoins qui va faire qu'en bout de ligne, ben, ton pont, ben, tu vas le réussir techniquement parlant. Tu vas pouvoir même innover dans la façon de fabriquer des ponts, être plus efficace dans l'exécution de tes projets. Moi, je pense qu'il faut que ça vienne de la compétence organisationnelle. Il faut qu'une entreprise comprenne c'est quoi son essence et son core business et qu'elle mette toutes ses énergies à augmenter cette compétence-là pour qu'elle soit ultimement la meilleure dans son domaine d'expertise. J'espère que je réponds à ta question, là.
Non, mais c'est très, très bien. Puis moi, je trouve qu'intéressant que les organisations réalisent de plus en plus l'importance de l'être humain puis de développement des compétences. Mais il y a des tendances là-dedans aussi, hein? Il y a des tendances dans le développement des compétences. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Oui, le domaine de l'apprentissage. En fait, il y a un paradoxe, je vais te dire. Les tendances au niveau du développement des compétences ne sont pas différentes, je dirais, à certains niveaux, de d'autres secteurs d'activité. Mais les grosses tendances actuellement, qui sont en même temps un danger, c'est la technologie, hein. On a de plus en plus de technologies accessibles autour de nous pour venir aider, faciliter. Mais c'est un piège parce que souvent on oublie l'essence. Je pense que la tendance qui devrait peut-être être une plus grande tendance, je dirais, c'est la base même de la formation. Ça fait des années, des dizaines d'années, je dirais même des centaines d'années qu'on les connaît. C'est pour apprendre, ben, il faut se relever les manches. On ne peut pas apprendre devant, exemple, une capsule vidéo de 30 minutes où tu as un expert qui te parle pendant 30 minutes. Qui t'expose tout son knowledge, toutes ses connaissances, l'individu en arrière de la caméra n'apprendra pas. Il va entendre, il va écouter, il va trouver ça intéressant, il va peut-être prendre une note ou deux, mais ça ne s'inscrira pas dans son cerveau. Donc, je trouve souvent, malheureusement, que les tendances technologiques sont un piège parce qu'en arrière de façade d'innovation ou de facilité d'accès, est-ce qu'on apprend mieux? Je ne suis pas sûr. Je pense que dans certains cas, on apprend moins bien. De plus en plus, au niveau tendance, on entend parler de faire du micro-learning, d'avoir accès à des petits morceaux de formation ici et là pour rendre encore plus facile la consommation parce que de plus en plus, les employés sont occupés au travail, ils n'ont pas le temps. Donc, on a dit, ben, si on fait des capsules de 15 minutes, ben, il peut en faire un peu dans le bus, un peu avant de se coucher, un peu le matin avant de commencer à travailler, un petit peu entre 1 heure et 2 heures parce qu'il a 15 minutes. Mais il faut faire attention parce qu'on n'apprend pas en se donnant des 5 minutes à droite, à gauche. Il faut créer ultimement des parcours d'apprentissage ou des activités d'apprentissage qui sont beaucoup plus solides. Et pour moi, s'il y a une tendance qui devrait peut-être être encore plus actuelle et que ça devienne une tendance, c'est qu'on revienne sur comment un individu apprend? Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Comment on construit donc un chemin d'apprentissage qui passe à travers les différentes étapes, qui prennent du temps?
Pourquoi, Cyril, que c'est rendu que le contenant est plus important que le contenu? On sait, ils sont tellement habitués à des jeux vidéo, des stimulés, qu'ils s'attendent à avoir un show lors d'une formation. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, là.
Je suis d'accord avec toi, Benoît. Le contenant, de plus en plus, depuis, je dirais, quoi, une dizaine, une quinzaine d'années, c'est sexy, hein? Puis on est tous excités de pouvoir consommer aussi facilement. Donc, ouais, c'est un danger, je pense. Il faut qu'on vienne à la base, que les neurosciences démontrent, confirment à travers de plus en plus d'études, hein, scientifiques, c'est que pour qu'il y ait apprentissage, faut qu'il y ait effort. Il faut que le cerveau encode des chemins qui sont nourris par de la connaissance d'un côté. Donc, la connaissance est importante. Mais pour que la connaissance fasse du sens pour chacun de nous, ben, il faut qu'il y ait exploration, il faut qu'il y ait de la réflexion, il faut qu'il y ait des essais-erreurs, il faut qu'il y ait de la contextualisation dans mon entreprise. Donc, tous ces efforts-là pour apprendre ne peuvent pas uniquement être attachés à de la technologie. Il faut qu'on revienne en fait à la base, puis d'être dans le pratico-pratique.
Oui, c'est vrai. Puis, en tout cas, je me sens d'une étude que j'ai lue qui dit l'andragogie, c'est le fait de faire travailler les gens pendant une formation de sorte que, tu sais, le fait qu'ils appliquent, qu'est-ce qu'ils apprennent, ils vont retenir beaucoup plus que simplement de façon passive, puis
Oui,
écouter quelqu'un pendant 8 heures, là. Fait que,
puis il y a une tendance, puis on le voit dans différents domaines. On semble vouloir donner beaucoup d'importance aux experts, hein. On est dans un domaine où on met sur des piédestaux les gens qui ont de la connaissance avec tout ce qui se fait au niveau conférence. Donc, on partage de l'information. Ceux qui réussissent, ben, on les met en avant, ils partagent leur histoire. Quand on fait une formation ou quand il y a besoin d'apprentissage, ce n'est pas le formateur qui est important. Il est important, bien sûr. C'est le participant qui est important. Il faut qu'un parcours d'apprentissage soit rattaché au participant et non pas au formateur. Donc, on parle en anglais, on utilise learner-centric versus trainer-centric. Souvent, la tradition au niveau de l'éducation, on peut revenir même jusqu'au banc d'école, souvent, il y a ce principe où c'est le maître qui est en avant, le formateur là, qui parle, qui est sur le stage, en fait, alors qu'il faut renverser la vapeur. Et c'est là où, moi, il faut qu'il y ait une réelle innovation où les organisations et les responsables de l'apprentissage viennent à comprendre que si tu veux designer une formation ou un parcours d'apprentissage pour tes employés, ben pense à ton participant, ne pense pas à l'expert, même s'il est important dans l'équation.
Qu'est-ce que je réalise, que les gens me parlent beaucoup, c'est qu'on est capable d'évaluer le transfert des connaissances de l'étudiant après une formation, en faisant un test, en faisant un examen, etc. Donc, on est capable de tester ses connaissances. Mais que lui transfère ses connaissances à l'entreprise, ça, c'est plus difficile. De sorte que, tu sais, individuellement, on est capable de mesurer, mais comment lui, avec ses nouvelles connaissances, le transfère dans l'organisation, ça, c'est plus difficile. En tout cas, qu'est-ce que j'ai compris?
En fait, il manque aussi une partie dans l'équation parce qu'un transfert de connaissances suite à une formation, par exemple, si elle est mesurée, parce que la majorité de ce qu'on fait dans des séances de formation, on n'évalue pas le transfert de connaissances, on évalue souvent la satisfaction au niveau de l'expérience vécue, déjà. Mais si on devait mesurer la connaissance, les études démontrent que normalement, après une semaine ou deux, 80% est oublié, hein. Donc, une connaissance ne sert à rien, justement. Donc, il faudrait qu'on sorte de la connaissance, justement, pour pouvoir dire maintenant, qu'est-ce que je suis capable de faire avec? Puis en anglais, moi, vous m'excuserez encore mon anglicisme, j'aime beaucoup le mot capability qu'on ne retrouve pas en français, mais que j'ai traduit entre être capable de. Donc là, est-ce que tu es capable, ultimement, de faire mieux ce que tu faisais moins bien avant? Donc si on ramène ça à la gestion de projet, un employé va suivre une formation en gestion de projet parce que, bon, il doit avoir des besoins des besoins quelconques, mais il faut qu'on les nomme, ces zones d'amélioration. Donc, si on est capable de les nommer, on est capable de mieux cibler un parcours d'apprentissage dans lequel il va avoir des connaissances. On n'a pas le choix. Il y a des principes, il y a des théories, il y a des bonnes pratiques. Il faut les connaître. Mais ensuite, comment être sûr qu'il les a appliquées dans le prochain projet pour que ce qu'il faisait moins bien, bah, qu'il le fasse mieux.
Ouais.
Donc, identifier le problème initial et le résultat obtenu, bah là, c'est facile de pouvoir passer de la connaissance à est-ce que tu es capable de faire mieux ce que tu faisais moins bien avant. Donc, c'est
Ah,
ce chemin qu'il va falloir créer.
ah, c'est bien intéressant d'être capable de. Écoute, si on ramène un peu la discussion, ce PMI a sorti le fameux triangle des compétences, à savoir que maintenant, ça prend des compétences comportementales, techniques, puis de sens des affaires. Et le modèle qu'on voit se tendre à l'horizon, c'est que le chef de projet, 85% de son temps va interfacer avec les parties prenantes, d'où l'importance des compétences comportementales. Qu'en penses-tu?
Ben, je suis très heureux de ça parce que j'associe énormément le métier de gestionnaire de projet au métier de gestionnaire, hein. Puis je trouve que le métier de gestionnaire a été de plus en plus étudié et compris pour démontrer que pour le métier de gestionnaire, il y a une grosse importance qui est mise sur ben, maintenant ce qu'on appelle le leadership, hein, c'est un grand mot. Mais en fait, la plupart de ton temps, tu dois gérer tes parties prenantes, tes employés, tes collègues, tes patrons, hein. Pour moi, un gestionnaire de projet, la plupart de son temps, doit effectivement faire à peu près la même chose qu'un gestionnaire. C'est un rôle d'influence énormément. C'est un rôle de meneur d'équipe parce qu'il travaille avec une équipe qui a autant besoin d'être alignée, motivée, encore même, je dirais, plus difficilement parce qu'il n'y a pas souvent un lien d'autorité, hein. Un gestionnaire de projet travaille beaucoup avec de l'influence. Donc, il doit en développer encore davantage ses qualités relationnelles. Donc, je suis content que les compétences, je dirais, non techniques sont mises de l'avant parce que c'est souvent là où ça accroche, hein, et c'est souvent là où la performance d'un projet, parce que pour X raison, ben, t'as pas réussi, exemple, à communiquer efficacement un enjeu qui était critique pour rediriger le projet à un endroit. Tu connais pas la business comme il faut, comment tu peux influencer tes parties prenantes si tu es uniquement technique? Parce que souvent, les projets, c'est des projets d'affaires, c'est pas des projets techniques, en bout de ligne, hein.
Oui, effectivement, et on voit que même la réalité change. Tu sais, ils appellent ça l'acceptabilité sociale. Maintenant, le citoyen a son mot à dire dans les projets et aussi le gestionnaire de projet doit être confronté à des équipes multiculturelles. Maintenant, il y a toutes sortes de monde qui vont faire partie du projet. Donc, il faut comprendre les éléments culturels des gens, etc. Donc, ça change énormément la donne.
Effectivement, puis encore une fois, je le refais le parallèle avec un gestionnaire ou tout employé, en fait, je veux dire, on travaille tous en équipe. L'aspect humain, pour un gestionnaire de projet, pour moi, ben, c'est sa matière première, hein, je veux dire, tu ne feras pas de projet sans individu. Donc, la première chose qu'un gestionnaire de projet doit être capable de faire, c'est gérer ses parties prenantes. Parce que s'il n'a pas ses parties prenantes on board, je veux dire, même si la personne connaît les bonnes pratiques en gestion de projet, il n'y a personne qui va le suivre. Ou il ne va pas flairer s'il ne permet pas, par exemple, à ses équipes de communiquer efficacement parce qu'il peut avoir un enjeu. Il ne remonte pas, ben, le gestionnaire de projet va avoir des œillères, quoi. Puis tu parlais de culture, tu parlais de façon d'être, mais je pense qu'on peut parler de tout ce qui est EDI, hein, je veux dire, cette gestion des différences. Mais moi je préfère utiliser l'unicité de chacun de nous. Hein. On est tous uniques. Hein. On est tous uniques, mais on a tous, quand on vient travailler, des motivations, des croyances, des valeurs, des craintes, des insécurités, des objectifs. Chacun de nous, à quelque part, doit se motiver et doit avoir sa place et se développer et être à son plein potentiel. Ben, le gestionnaire de projet a cette mission-là de tirer le maximum de chacun pour qu'il contribue à son projet. Donc, c'est un bon point que tu notes.
Et Cyril, tantôt, tu as parlé de l'importance des technologies. Comment tu vois, toi, l'intelligence artificielle maintenant dans le développement des compétences? Tu sais, c'est un enjeu. Ça peut être une opportunité extraordinaire, comme ça peut être quelque chose de vraiment préoccupant pour les gestionnaires.
Mais je pense que moi, par expérience, je travaille dans le domaine dans lequel la technologie a introduite depuis une vingtaine d'années maintenant. Il faut juste s'assurer de prendre un certain recul et de ne pas voir la technologie comme étant une fin en soi. C'est un ajout, c'est un levier qu'on doit utiliser. Donc, il faut qu'on maximise la technologie. Ça c'est non négociable. Elle existe, elle peut venir aider. Comment est-ce qu'elle peut aider? Au niveau d'intelligence artificielle, pour être très, très honnête, moi, personnellement, je suis encore dans une période où j'essaye de voir, en fait, comment l'intelligence artificielle va venir bouleversée, positivement ou négativement. Donc, tu parlais de risques d'opportunités. Il faut la faire, cette analyse-là. On n'a pas le choix. Je pense que c'est un changement qui est là. Bon, pour moi, c'est de la technologie, comme tu l'as dit. Comment elle va venir aider, bouleverser, éliminer certains métiers peut-être, ou certains bouts de métiers. Je crois que la prochaine année, les deux prochaines années, il faut qu'on s'y penche. Hein. C'est encore pour moi quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens ne savent pas comment ça s'applique. On voit la pointe de l'iceberg avec un chat GPT, par exemple, qui peut écrire un texte pour moi, qui peut créer une image pour moi. Ça, c'est simple, hein, on le voit devant nous, mais au niveau des organisations, comment on peut automatiser, simuler. Mais au niveau de développement des compétences, je dirais, pour moi, prématuré de dire quel est l'impact. Ça me préoccupe et ça m'habite. Ça, je peux dire.
Il y a même qu'il y en a qu'on va jusqu'à dire que le fameux triangle portée, coût et échéancier va devenir probablement pour le gestionnaire de projet, ça prend l'intelligence émotionnelle, ça prend l'intelligence collective et ça prend l'intelligence artificielle.
Ouais, ben j'aimerais ça ne pas mettre l'intelligence artificielle au même niveau, par contre, que l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle, parce que je trouve que ça vient le mettre au même niveau que l'être humain, en fait. Et pour moi, l'être humain doit utiliser l'intelligence artificielle. C'est un outil. Ouais. Je pense qu'il faut rester peut-être sage par rapport à qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, parce qu'on est très loin. Le mot intelligence, puis c'est pas moi qui le dis, c'est des experts, c'est un grand mot encore.
Ouais,
est-ce que dans 10 ans, on va pouvoir dire qu'elle est intelligente, cette machine? Mais elle n'est pas intelligente, là. Elle a des capacités de calcul meilleures que nous. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'elle est intelligente? Pas encore.
C'est le temps file, malheureusement. On passerait des heures à discuter de ça.
J'aimerais ça.
Avant de se quitter, Cyril, ça serait quoi, toi, le message que tu voudrais envoyer aux nouveaux gestionnaires, aux jeunes générations qui rentrent sur le marché du travail par rapport à l'importance des compétences, etc.?
Ouais, mais moi, je pense que c'est arrivé, toi, dans le milieu du travail il y a peut-être 10 ans, Benoît. Je te rajeunis, là.
Bon, merci.
Moi aussi, il faut dédramatiser peut-être la situation. On arrive avec notre bagage, puis c'est un parcours. Hein, je veux dire, on va tous évoluer, on va tous apprendre, on va tous réussir, on va tous ne pas réussir. L'échec, on va le vivre et on va tous apprendre. Hein. Dans plusieurs cas, on apprend même sans s'en rendre compte. Moi, je trouve qu'on est quand même dans une ère qui est super excitante. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'évolutions au niveau des pratiques, des théories. Il n'y a jamais eu autant de connaissances, je pense, et d'innovations. Moi, je trouve ça super excitant. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il faut... Il faut prendre le temps de prendre des fois le recul, puis d'évoluer. En même temps, je trouve qu'on met de plus en plus l'emphase sur les individus. Je trouve ça le fun. On traite de mieux en mieux donc la ressource humaine. De plus en plus, les moyens sont là. Moi, je trouve ça super intéressant. Maintenant, comment on essaie de faire quelque chose de plus cohérent? Parce que plus il y a des moyens, des fois plus il y a d'informations, plus on peut s'y perdre. Hein. Donc, peut-être de revenir un peu à l'essentiel. Suivre son instinct aussi. Chacun a sa voix, chacun veut apprendre. Prenons comme il faut. Mais bon, voilà, il n'y a pas toujours des recettes. Il faut expérimenter.
Écoute, Cyril, j'aimerais te remercier chaleureusement d'avoir pris ce temps-là pour venir jaser avec nous du développement des compétences, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment très apprécié et on l'apprécie énormément, ce côté-là. Et chers auditeurs, ben, on avait la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Cyril Bulgarides, le président de Technologia, pour nous jaser du développement de compétences. Et merci de nous suivre et à très, très, très bientôt pour un prochain podcast GPBL Pensée Projet. Merci beaucoup et au plaisir.